Allez en route. Ne ressortez pas là. Allez, à cheval. Salut, toi. Ça va ? Ils sont en réunion, toi, ton groupe, là ? Ils sont en réunion, ton groupe ?
L'efficacité.
En même temps.
Monsieur Nard, revient.
Laurent, monsieur Mostafa Fourard donne pouvoir à madame Petiot, mais madame Petiot n'est pas au courant. Ah, c'est compte tenu de l'intéressé, c'est toujours auréolé de mystère. Bien, la séance est ouverte. Monsieur Serge Bouly a donné pouvoir à madame Dati. Madame Chantal Carraro a donné pouvoir à Valérie Jurin. Mathieu Dapp à madame Elisabeth Laitier. Valérie Debord à Monsieur le Président, Madame Franceline Denis, Jean-Pierre Urpeau, Monsieur Mostafa Fourard aurait donné pouvoir à Madame Sylvie Petiot, Monsieur Laurent Garcia a donné pouvoir à Jean-Pierre Dessin, Fanny Jussiani à Jean-Michel Berlemont, que je cherche. Ah, le voilà, plein. Jean-François Husson à Pierre Boileau, qui est là.
Monsieur le Président.
Daniel Magron à Monsieur Alain Boulanger, qui n'est pas encore là. Jean-François Midon à Monsieur Pascal Fini, Monsieur Misère à François Werner, Franck Pilser à Lucienne Redercher, je n'ai pas vu arriver encore, Didier Sartelet à Michel Candat, Madame Talot à Thierry Coulon, Gilles Bertil à Laurent Hénard, Romain Pironnet jusqu'à son arrivée à Madame Sadoun, Michel Breuil à Madame Inde Magada, Bertrand Kling à Monsieur Henri Chanu, Madame Lévy-Sifferman à Madame Rouillon, Madame Christine Simonet à Stéphane Gruet et Nadia Sutter à Pascal Jacquemin. Est-ce que Madame Inde Magada accepterait d'être secrétaire de séance ? Alors, le premier point est à mon rapport, et à tous ceux qui voudront bien prendre la parole, c'est parce qu'ils sont concernés. Notamment François Werner. Compétitivité et rayonnement à tout du Grand Nancy, territoire d'innovation de grande ambition, des hommes et des arbres, les racines de demain, application de la convention avec la Caisse des dépôts, convention de reversement, contrat de recherche et commande de prestations avec les partenaires du consortium. Mes chers collègues, nous avons là l'exemplarité d'une forme profondément renouvelée et moderne de travail de l'État, en liaison avec une multitude de partenaires scientifiques, économiques, universitaires et notamment les collectivités territoriales. Nous sommes donc en liaison avec la communauté d'agglomération d'Épinal en charge d'animer un consortium de 75 partenaires publics, privés, voire associatifs, économiques, sur un dossier territoire d'innovation de grande ambition, c'est-à-dire TIGA, des hommes et des arbres, les racines de demain. Nous avons, sur ce sujet, franchi la première étape de présélection avec plutôt élégance. Nous préparons maintenant, pour la fin de l'année ou début de l'année suivante, le dossier définitif qui pourrait nous amener à contractualiser sur des sommes considérables avec l'ensemble des services de l'État, la Caisse des dépôts. Nous avons d'ailleurs, depuis notre échéance, premier cercle passé, enregistré une subvention de près de 400 000 euros de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit de conventions de reversement, de contrats de recherche et de commandes de prestations avec les partenaires du consortium. Donc, cette délibération s'inscrit dans la phase du projet TIGA, lancé en mars 2017 par l'État. Pour mémoire, nous avons été dans les 24 dossiers retenus sur 117 au niveau national, début janvier 2018. Et c'est dans ce cadre que 377 000 euros de crédit d'ingénierie seront versés à la métropole du Grand Nancy, 50% des signatures de la convention, 50% sur production de justificatifs pour le compte du consortium qu'elle a constitué. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail ici de l'administration de la métropole, de tous nos partenaires, car c'est un travail considérable, considérable. Vous êtes d'ailleurs invités bientôt. Il y a eu un travail original, nous y étions avec François Werner à Épinal, avec l'École nationale supérieure du bois, l'École d'architecture, les compagnons du devoir, qui ont, sur la base de création, réalisé un certain nombre de pièces qui seront exposées, implantées dans le jardin botanique du Montet. Je pense que c'est la semaine prochaine, François.
Le 26 juin.
Le 26 juin, chez Monsieur le maire de Villers. Alors, les études dont nous allons discuter sont rappelées et articulées autour de quatre axes. Premièrement, favoriser les écosystèmes naturels durables et résilients, accompagner l'adaptation des écosystèmes face au changement climatique dans le respect de la biodiversité, gérer durablement les concurrences d'usage, garantir un usage vertueux du bois, production, consommation et recyclage. Deuxièmement, valoriser les ressources forestières et végétales, expérimenter de nouvelles techniques de valorisation de la biomasse forestière dans l'habitat et l'énergie, imaginer de nouveaux usages du bois en artisanat d'art et design, créer des quartiers démonstrateurs et innover dans la créativité architecturale. Placer la nature au service de la santé et du bien-être. Vous avez certainement vu voir ces temps-ci dans beaucoup de revues, y compris grand public, commencer à parler de la sylvothérapie, qui est une façon d'être et du rapport à la nature et aux arbres. Prévenir les risques sanitaires en forêt. Mobiliser les ressources végétales pour la dépollution des sols, la préservation de la qualité de l'eau et de l'air, la lutte contre les îlots de chaleur, promouvoir les bienfaits thérapeutiques et sociaux des jardins et forêts. Vous savez que nous sommes une agglomération. D'ailleurs, dans la plupart des communes de l'agglomération, de la métropole, il y a des efforts extrêmement vertueux des communes, des particuliers, pour donner un agrément à nos communes, voire même sur le plateau de Haye, des jardins partagés et toute une série, je dirais, d'applications qui sont extrêmement sympathiques. Évaluer et faire participer, évaluation métrologie multifactorielle des services rendus par les écosystèmes forestiers, reconnecter les habitants et les citoyens à l'environnement via la fabrique des hommes et des arbres, co-construire des projets citoyens. Vous avez un certain nombre de détails dans la délibération qui est appelé à être soutenu par vous-même. Et je voudrais conclure en disant que sans la volonté politique dans ce rôle d'amorçage et l'une des traductions, le dossier des hommes et des arbres, les racines de demain, n'aurait jamais vu le jour. Or, les retombées globales diversifiées, ce n'est pas un problème là, de délégation, sont indiscutables, tant cette candidature aura permis de marquer une influence et notre capacité d'entraînement dans la structuration d'un territoire de projet qui dépasse d'ailleurs naturellement, et c'est toute l'originalité, la puissance de ce projet sur une thématique qui implique l'État dans sa diversité, les territoires, tout le massif vosgien jusqu'en Haute-Marne, les parcs naturels régionaux, tout ça. Naturellement, la forêt de haies dont François Werner préside maintenant le syndicat mixte et l'animation. On est donc tous invités. François, c'est quand, le samedi et dimanche?
24, c'est le 24 en forêt de haies et le 23.
Alors, le 23 au jardin botanique et le 24, nous invitons toute la population à venir faire une balade en forêt. C'est simplement prendre l'air en forêt, prendre conscience que nous sommes dans une métropole entourée de forêts, qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble et que c'est le début d'une aventure. Nous qui avons été à l'aune à la fin du 19e siècle de la création des talents issus de l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, aujourd'hui AgroParisTech, et qui forment encore aujourd'hui à Nancy un nombre important de talentueux ingénieurs des eaux et forêts. Voilà, je soumets ça à votre appréciation. Pas de remarques, pas d'opposition, adopté. Le deuxième point est au rapport de François Werner, qu'il a défendu avec brio en commission. La création de la Fondation pour l'humanisme numérique. On m'a tellement parlé de ton intervention en commission, François, que tu ne dois pas avoir besoin. Tu veux le rapport ? C'est la délibération numéro 12.
Elle était bien au rapport du président. Donc, juste pour indiquer que vous vous souvenez d'ailleurs sans doute qu'un colloque a été monté sur le sujet de l'humanisme numérique. Et que ce que l'on a constaté au moment de ce colloque et autour, c'est que c'était un sujet qui était extrêmement peu défriché à cette époque. Et on était, à cette époque qui n'est pas si lointaine, hein, et on était à ce moment-là, quelquefois, avec un petit sourire en coin. Depuis, il s'est passé bien des choses sur... les sujets en particulier de protection de la vie privée, mais ça c'est pour peut-être les dangers du numérique pour l'humanisme, mais il faut voir aussi toutes les opportunités qui peuvent se présenter avec les dispositifs modernes et donc numériques d'accès aujourd'hui à la culture ou au savoir. Donc, il est proposé de créer une fondation abritée par l'Académie des sciences morales et politiques, dont l'objet est rappelé dans la délibération, encourager et soutenir la recherche scientifique autour de problématiques liées à l'humanisme dans son rapport au numérique, de soutenir ou d'organiser des séminaires et colloques sur les thèmes correspondants, d'encourager l'édition d'œuvres scientifiques, littéraires et de communication, et d'accompagner la production d'applications et de supports pédagogiques. Il est proposé donc, pour faire une première dotation au fonctionnement, d'apporter 25 000 euros lors de la signature et un même montant en 2019, sous réserve bien sûr du vote des crédits de 2019. 25 000 euros viendront aussi compléter cette dotation initiale en provenance de concours d'apport d'origine privée ou autres contributions publiques, ce qui porterait le budget à 75 000 euros. Les fonds et valeurs de la Fondation seront gérés conformément aux principes de gestion financière de l'Académie des sciences morales et politiques. La Fondation pour l'humanisme numérique n'a pas la personnalité morale, comme quasiment toutes les fondations. Elle a simplement donc un compte à l'Académie pour son fonctionnement. Vous avez un rappel de la gouvernance de cette fondation qui est tout à fait classique. L'idée, c'est de faire en sorte que nous restions les porteurs de cet esprit-là, qui est de dire sachons prendre le meilleur du numérique et sachons aussi, là aussi, sans être pris de court, comme l'ont été certains utilisateurs de Facebook ou que sais-je encore, être vigilant sur les barrières qu'il faut poser.
Merci. Des observations, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je fais une intervention pour un vote. Je le dis simplement parce que je n'ai pas été à l'origine de ce choix de vote, mais je le défendrai par solidarité du groupe, parce que cet objet de délibération, je dirais, et je l'ai déjà dit d'ailleurs en certaines réunions, Monsieur le Président, vous le savez, c'est l'antithèse du numérique, l'humanisme. Nous savons que la mécanique numérique n'a rien d'humain, que le développement des fake news montrent à quel point il y a des manques de déontologie de l'usage et de la pratique, c'est une chose. Et que l'on parle aujourd'hui de l'addiction des jeunes à différents centres d'intérêt du numérique qui ne vont pas dans le sens de l'être humain et qui respectent en tant que tel l'être humain. Rien que ces différents éléments auraient dû nous alerter, nous empêcher d'aller dans cette direction d'une délibération qu'effectivement l'Académie des sciences et morales soutient, mais de par sa participation m'inquiète parce que ça montre qu'elle est quand même tombée bien bas pour se prêter à ce genre de mariage à contresens. Alors je comprends bien sa volonté de recherche. Mais le coût de notre participation n'est pas négligeable. Ça n'a pas été trop insisté, mais 2 fois 25 000, 50 000 euros, en tout cas pour commencer. Monsieur le Président, ni si nous avons ce bel argent à donner à cette recherche, j'espère que nous n'aurons aucun souci pour financer le tram de la ligne 1, ce qui est encourageant et montre bien que nous n'aurons aucun souci pour le pays. Nous voterons contre cette délibération, Monsieur le Président.
Merci. D'autres interventions, Monsieur le rapporteur.
Oui, je crois qu'on ne peut pas dire que le numérique est intrinsèquement contraire à l'humain et à l'humanisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut voir que le numérique est à l'origine, en particulier, je dirais, de quelques très grands élans d'humanisme et d'humanité. Le numérique a permis aussi dans toute une série de pays, et d'ailleurs il n'est pas un hasard s'il est tant que ça bridé, sans mauvais jeu de mots, dans certains pays comme la Corée du Nord, c'est parce que le numérique aujourd'hui est un espace fondamental de démocratie, de liberté et aussi de capacité à lancer des grands mouvements humains de générosité. Donc, bien sûr, fake news, exact, bien sûr, dérive, tout ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord que, bien évidemment, tout ça doit être accompagné et traité, mais je crois qu'on ne peut pas dire que c'est intrinsèquement une erreur. Je pense que ça devient une erreur si on ne crée pas, justement, même si c'est modeste, bien sûr, l'initiative reste à ce stade modeste, si on ne crée pas, justement, les lieux pour être vigilants, pour trouver les bonnes pratiques, pour aussi accompagner l'utilisation d'un outil qui s'impose et s'imposera de toute façon.
Monsieur le maire de Maxéville.
Merci, Monsieur le Président. C'est sûr que la généralisation du numérique dans les activités humaines va imprégner profondément notre mode de vie. C'est un fait, le numérique est partout, dans notre vie de tous les jours, dans nos déplacements, dans notre travail, le numérique a une place importante et moi je suis de ceux qui pensent que c'est une avancée plutôt qu'une régression de la qualité de vie humaine par rapport à ce que l'on peut voir. Moi, quand je vois une délibération qui propose d'encourager et de soutenir la recherche scientifique, de proposer des colloques de réflexion. Je ne peux pas voter contre quelque chose qui encourage la recherche scientifique, parce que ça viendrait en contradiction avec tout ce que je dis depuis le début de ce mandat. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je voterai pour cette délibération.
Merci. Je pense que nous sommes là sur le début d'une évolution de notre civilisation et qu'il faut être très attentif à la compatibilité. C'est le mot que j'utilise, entre les valeurs de l'humanisme et le comportement de ceux qui créent, animent, développent ou exploitent, je dirais, le numérique. C'est bien cette quête de compatibilité qui, aujourd'hui... Alors, je pense que nous allons avoir, d'ailleurs, je pense, d'autres grandes métropoles ou grandes villes qui sont intéressées par notre démarche, parce que que ce soit Nancy, d'ailleurs, qui crée... ça va bien avec son histoire, sa philosophie de la vie, de la recherche en même temps, et des valeurs républicaines et humanistes. Je mets donc aux voix qui est contre. Je vous remercie. Il en est donc ainsi décidé. Alors, Monsieur Werner, soutien au World Material Forum 2018.
Oui, là, je suis mieux outillé. Le World Material Forum est maintenant une manifestation qui s'est bien enracinée dans notre paysage, puisque c'est la cinquième qui va avoir lieu en 2018. L'idée initiale est désormais pleinement atteinte. C'était de faire en sorte que, sur le territoire de Nancy et du Grand Nancy, qui est probablement une des capitales mondiales des matériaux, je suis prêt à justifier ce qualificatif ambitieux, on transfère en particulier sur la recherche, et ben on transforme cet essai en y faisant d'une part un moment de mise en valeur de ces éléments et de cette qualité de recherche, mais aussi en étant capable de réunir autour de ce site et de ces acquis scientifiques, de réunir le monde économique et notamment les plus grands dirigeants et décideurs économiques qui sont aujourd'hui dans beaucoup de direction, dans beaucoup de spécialités, puisque les matériaux, c'est toutes sortes de matériaux. Il y a bien longtemps qu'on n'est pas seulement sur les matériaux acier ou ferreux, mais on y est aussi, et ça reste d'ailleurs tout à fait d'actualité. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre ce soutien. Vous avez dans la délibération la liste des chefs d'entreprise qui seront présents. Je crois que ça parle de soi-même. C'est devenu un événement mondial. Et dans un budget de 450 000 euros, nous sommes sollicités pour 100 000.
Merci. Monsieur le maire adjoint de Vendeur, vous avez la parole.
Il n'y a plus de maire adjoint.
Comment vous ne l'avez pas ?
Pardon.
Merci, Monsieur Verdun. Oui, on va soutenir cette délibération, mais ce sera peut-être la dernière fois. Nous avons besoin de revoir la distribution de nos finances, parce que des économies importantes sont à faire. Nous allons soutenir cette délibération parce que ça a été préparé, etc., et qu'on ne peut pas changer de cap du jour au lendemain, ça nous le comprenons bien. Mais sur le long terme, voilà typiquement le type de délibération qu'il faudra rediscuter, non pas pour son objectif, mais pour son montant financier, parce que ce sera ça ou la ligne 1. Merci.
Une chose, une fois pour toutes, et je ne le répéterai plus. Si vous êtes vraiment partisan de la ligne 1, il faut arrêter d'utiliser en séance ce genre d'artifice qui n'est pas de la politique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Et quand je m'adresse à vous, je peux vous dire que je pense vraiment, et je ne vous imaginais pas capable de copier ce genre d'argumentaire et en même temps de défendre un grand projet qui dépasse les difficultés du moment. Vous n'avez pas la parole. Et on verra. On verra aussi les choix qu'on fera et qui portera la responsabilité de porter les projets. Alors, pas d'opposition, il y en a eu quelques-unes, c'est adopté. Alors, Monsieur Laurent Hénard, bibliothèque numérique de référence, convention de cofinancement de la campagne de communication l'immédiat.fr avec le Sillon Lorrain.
Oui, alors, il s'agit de 38 000 euros pour la métropole et la ville de Nancy. À du concurrence, bien sûr. Il s'agit surtout de faire connaître au grand public la mise en place de la bibliothèque numérique de référence. On a eu, je rappelle, un premier investissement après la labellisation de 2013 qui a représenté plusieurs millions d'euros permettant de développer la BNR à Nancy, à Metz, à Thionville, à Épinal. Cette bibliothèque numérique de référence connaît une nouvelle étape, notamment avec la mise en place de 3 sites directement accessibles au public, et donc une accélération aussi des campagnes de numérisation de ce que nous pouvons avoir dans les collections de nos médiathèques, bibliothèques des 4 villes du Sillon Lorrain, la mise en place notamment d'un entrepôt numérique. La bannière commune à ces 3 sites et à cette politique de mise à disposition du public est l'immédiat.fr, et donc une campagne de communication a été engagée en avril dernier et durera jusque la fin d'année pour faire connaître pas seulement bien sûr l'appellation, mais surtout les services numériques offerts au grand public. Ça représente quand même 1 200 000 habitants que les usagers résidant dans le Sillon Lorrain.
Merci. C'est aussi de l'humanisme numérique. Oui. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Événement œno-gastronomique, tout le monde à table.
Oui, il s'agit en fait de s'associer à une année d'événements permettant de fêter les 20 ans de l'appellation d'origine contrôlée, puisque à l'époque ça s'appelait Naos, des Côtes de Toul. Je rappelle qu'à l'échelle du SCOT, nous avons défini toute une série d'axes de coopération. Maintenant, pôle métropolitain. Et le tourisme, notamment, fait partie des sujets sur lesquels la métropole s'est engagée dans une voie de coopération avec les intercommunalités autour. Alors, si les Côtes de Toul ne sont pas sur le territoire de la métropole, néanmoins, c'est évident que ça participe d'une démarche touristique qu'on peut mettre en commun avec nos voisins toulois. Il s'agit bien sûr d'un événement singulier, puisque là, c'est le 20e anniversaire. C'est l'occasion aussi pour les producteurs de se faire un peu mieux connaître et de montrer quelles sont les démarches qualité qu'ils envisagent pour les années à venir, notamment dans le domaine de la production bio et ou raisonnée.
Merci. Des observations ? Pas d'opposition ? Adopté. J'indique que c'est avec le ministre de l'Agriculture de François Guillaume en 1986, lors d'un déplacement du Premier ministre en Lorraine, que nous avions parmi les dossiers que nous avions présentés, ce dossier AOC, qui fait maintenant aujourd'hui du vin de Moselle et de Toul quelque chose qui a beaucoup évolué, qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Alors, François Werner, développement économique et innovation, soutien à l'Agence régionale d'innovation Grand Innov.
Oui, la région Grand Est a donc décidé de créer une agence régionale de l'innovation qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de régions et qui transforme mais accompagne une démarche qu'on retrouvait déjà dans chacune des 3 anciennes régions, avec Alsace Innovation, le centre de ressources régionales en Lorraine ou IDÉE Champagne-Ardennes. Et la démarche qui est portée dans, je dirais, cette version définitive, puisque les premières versions étaient beaucoup plus ambitieuse ou plus exactement beaucoup plus solitaire, c'est d'être plutôt un catalyseur de l'innovation à l'échelle régionale en offrant
directement ou indirectement, des possibilités d'ingénierie de projets d'innovation, des accélérations pour start-up en post-incubation, mais il ne s'agit pas de construire des incubateurs nouveaux, du financement de solutions d'innovation, plus exactement aider à trouver des solutions de financement et l'accompagnement des projets territoriaux d'innovation. Donc cette démarche qui se veut et qui est extrêmement partenariale inclut évidemment les acteurs de l'innovation dont proposition est faite que cette inclusion aille jusqu'aux métropoles dont on sait qu'elles ont une action autonome sur l'innovation. C'est la raison pour laquelle nous sommes sollicités à hauteur de 50 000 euros. Ce qui est plutôt symbolique par rapport à l'ensemble de l'ambition de la démarche, mais qui cherche à associer tout le monde, les CCI, la région et les 6 métropoles. Je précise au passage, ce n'est pas dit dans la délibération, mais il faudra qu'on y soit attentif, qu'il faut que cette agence se coordonne intelligemment avec les travaux actuellement réalisé au sein du C2IME, qui a donné grande satisfaction à l'ensemble des acteurs lorrains. Plutôt heureux de parler comme l'aurait peut-être fait Christophe Chauzereau. Voilà.
Donc, La parole est à Christophe Chauzereau.
Ce qui est proposé, c'est ça. Et donc, voilà le sens de cette délibération. Ça nous permet d'être autour de table et de travailler intelligemment pour éviter les doublons, simplifier la vie des entrepreneurs et donner du résultat en matière de recherche et d'innovation.
Merci. Donc, l'adhésion soutient à l'agence et sa voix adhésion. Donc, il y a un vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté. Attribution au titre du pacte État-métropole du Grand Nancy de pour donner un soutien, Monsieur le Président du Conseil de surveillance, à projet économique au CHRU et centre de cybersécurité avec le ministère des Armées.
Oui, presque tout est dit, mais il faut quand même en dire deux mots, puisque ces projets sont quand même importants. Ils sont effectivement issus du pacte État-Métropole. Le premier, on en parle depuis longtemps, et Laurent a eu l'occasion de le développer autour de la stratégie économique et notamment de l'axe santé de cette stratégie économique. L'idée est, dans l'espace du CHU, de créer un hôtel à projet économique qui permettra à des entreprises, et en fait, il se trouve qu'il y en a déjà, qui permettra à des entreprises de travailler très étroitement avec le centre de soins, donc d'être vraiment au cœur de leur espace. Donc l'hôtel à projet va démarrer en 2018 pour une livraison fin 2019. Le budget global, c'est 1,087 million. L'État apporte 546 000 euros sur le pacte métropolitain. Le Grand Nancy, 250 000. Le CHRU apporte 291 000. Le deuxième aspect, c'est le Centre européen de cybersécurité avec un partenariat avec le ministère des Armées. L'INRIA Nancy, c'est le site de cybersécurité civile. En France, c'est le très gros site de cybersécurité civile. Nous avons, vous le savez, participé à la création d'un institut franco-allemand de cybersécurité en 2017, qui va continuer d'ailleurs son développement. Le développement du numérique a mis en lumière un nouveau domaine de développement économique, les données, leur gestion et leur protection avec la fiabilité des équipements réseaux de télécommunications, espaces de stockage et logiciels. Et aujourd'hui, ces domaines sont très, très actuels. Donc là, le sujet, c'est de le faire en partenariat avec le ministère des Armées, puisque celui-ci a décidé de mettre en place une cyber-réserve pour renforcer le territoire de capacité à répondre aux attaques et aux attentes de ce même ministère, aussi de la justice et de l'économie. Traçage et relevé des données numériques en cas de crise ou d'enquête, résilience rapide des réseaux. Donc cette cyber-réserve, elle comprend deux volets, une réserve opérationnelle de compétences civiles qui sont rapidement mobilisables en cas de crise aux côtés de la défense, et une réserve citoyenne qui est formée aux enjeux, que ce soit les directions des services informatiques, les sociétés de services, les data centers, tous ces gens qui peuvent collecter de la donnée sensible sur le plan de la défense. Donc la base de défense veut monter cette cyber-réserve à partir de Nancy.
parce que, encore une fois, nous avons les forces académiques et économiques du territoire. Donc, dans le cadre du pacte, il est proposé de soutenir cette démarche à hauteur de 250 000 euros, 150 000 en 2018 et 100 000 en 2019.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition.
La ligne 1.
Alors, M. Passalfini et M. Werner. C'est M. Passalfini qui rapporte, je crois. Communication sur un avis rendu par la Chambre régionale des comptes.
Bien, chers collègues, alors justement, que dit cet avis ? Simplement pour rappel, cet avis nous est parvenu au Grand Nancy récemment, le 2 mai 2018, rendu par la Chambre régionale des comptes sur saisine du comptable du syndicat mixte pour un défaut d'inscription d'une dépense obligatoire au BP 2018 pour la quote-part de la participation de la métropole à ce syndicat mixte. Eh bien, cet avis mentionne le caractère obligatoire de cette dépense, soit 237 231 euros, je vous fais grâce des centimes, qui nous oblige à l'inscrire au budget 2018. Bien, alors, comment en est-on arrivé là ? Simplement pour rappel, ce syndicat mixte a été créé en 72 et l'objectif de cette réalisation, c'était effectivement la création d'un plan d'eau et d'un complexe régional, pour ceux qui le connaissent, de sport et de loisirs. Puisque nous étions en communauté urbaine à ce moment-là, eh bien, quels étaient, outre la communauté urbaine, les membres de ce syndicat, suite au transfert des compétences qui date de l'année 96, eh bien, nous sommes 10 membres aujourd'hui, puisqu'il y a le département de la Meuse, la communauté urbaine du Grand Nancy, aujourd'hui métropole, la région Lorraine, la communauté de communes du Chardon-Lorrain, et enfin 6 communes meusiennes riveraines du lac. Bien, aujourd'hui, évidemment, il y a une clé de répartition qui est adapté à ce syndicat, où seules 3 collectivités participent dans cette clé de répartition. Il s'agit de la région Grand Est, de la Meuse et de la métropole. Au titre de pourcentage clairement défini, région 78,3%, la Meuse 15% et la métropole à hauteur de 6,7%. Les autres membres, je l'ai dit, ne participent pas financièrement à ce syndicat mixte. Eh bien, puisque nous sommes sur un pourcentage, vous voyez un petit peu... la difficulté, puisque on est indexé sur le coût de fonctionnement de ce syndicat mixte et qu'il y a des années sans. Et en l'occurrence, en particulier de 2014 à 2015, eh bien, cette participation, nous avons subi une augmentation de 11% suite à des dépenses de fonctionnement importantes de ce syndicat mixte. Donc au regard justement de ces aménagements ambitieux et surtout de la montée en puissance légitime de la région, eh bien, il nous a semblé que le rôle du Grand Nancy était apparu marginal. Donc nous avons délibéré en octobre 2015 à l'unanimité sur ce retrait du syndicat. Alors comment aujourd'hui en est-on là par rapport à ces décisions que nous avons prises à l'unanimité ? Eh bien nous sommes appuyés sur l'article 9 des statuts du syndicat mixte qui précise que pour demander son retrait au syndicat, eh bien ça doit être accepté par délibération du comité syndical et bien sûr adopté à la majorité des 2/3 et après consultation des assemblées délibérantes des membres du syndicat qui disposent d'un délai de 40 jours pour rendre un avis simple sur ce projet de délibération. Et à défaut d'avis de ce délai, et dans ce délai, eh bien, c'est considéré comme favorable. À ce jour, mis à part la Meuse qui a voté défavorablement, l'ensemble des autres collectivités avaient voté favorablement, y compris d'ailleurs la région, et la Meuse s'était appuyée sur l'idée de ne pas voter favorablement en s'appuyant sur le non-devenir ou non-savoir de cette clé de répartition. Alors, aujourd'hui, le syndicat mixte a un petit peu traîné, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que cette procédure de retrait n'aille pas jusqu'à son terme aujourd'hui. Conclusion de l'affaire, je vous l'ai dit en préambule, la Chambre régionale a conclu que nous devions procéder au règlement des sommes sur l'année 2016-2017 et qui est à la hauteur de la somme que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, les suites que nous souhaitons donner, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de précision sur un projet stratégique de tourisme et de loisirs d'intérêt général, et surtout viable économiquement, la métropole souhaite maintenir sa volonté de se retirer du syndicat. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, Monsieur le Président, sachant que c'est qu'une communication.
Donc, c'est-à-dire que nous allons régler ce qui est dû en retard de cotisation, et nous maintenons, nous ne sommes pas sûrs de l'obtenir, la demande de retrait, c'est bien ça ?
Exactement.
C'est mieux compris comme ça.
Tu vois ? T'as eu peur, hein?
Merci, monsieur le maire d'Arthes. Pas d'opposition. Adopté. Voilà. Adopté. Là, on donne communication. Hein. Alors, nous en étions à Madame Gavrilov.
J'avais pas compris.
Stratégie alimentaire et agriculture périurbaine, convention avec la Chambre départementale d'agriculture.
Oui, merci, Monsieur le Président. Il vous est donc demandé d'approuver la convention cadre de partenariat avec la Chambre d'agriculture, une convention sur 5 ans, 2018-2022, avec un programme d'action composé de 7 axes de travail, 13 objectifs et 29 actions. Donc cette convention vient dans le prolongement de la précédente qui avait eu lieu en 2007-2013 et aussi du diagnostic agricole territorial qui a été réalisé et présenté lors d'un précédent comité de pilotage agriculture. Donc les grands axes de cette convention sont tout d'abord de renforcer la gouvernance avec la création d'espaces de concertation et de discussion aussi bien avec la Chambre qu'avec les agriculteurs. Une opération de sensibilisation à destination des publics et des scolaires, notamment une promotion du tourisme vert, bien évidemment le développement de la politique alimentaire de territoire en lien avec le projet alimentaire territorial porté par le département et la métropole, avec là aussi des études en cours, aussi bien sur la plateforme logistique que sur la création d'infrastructures spécialisées. La valorisation du foncier agricole en lien avec la trame verte et bleue et aussi les études sur les zones humides. Des actions qui seront réalisées pour agir en faveur de la qualité environnementale, donc aussi bien au niveau de la qualité de l'air que le développement de bonnes pratiques agro-environnementales. Et enfin, le soutien à des initiatives innovantes, que ce soit pour la valorisation des déchets, la mise en place de fermes urbaines ou le développement des centrales photovoltaïques sur les installations agricoles.
Merci. Tout le monde se sent une âme d'agriculteur.
Pardon ?
Non, c'est pas. Je demandais à l'Assemblée si elle, tous les membres se sentaient une âme d'agriculteur. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors. L'affaire suivante est au rapport de M. Hénard. C'est Mme Petiot, je crois, qui rapporte. Laurent, hein ?
C'est quoi ?
Mme Petiot rapporte.
Ah oui, oui, oui.
Allez, Sylvie, comme dit M. le maire de Nancy.
Oui, il s'agit donc du conventionnement du partenariat avec les ATP, les associations territoires-projets. Vous savez, c'est des réseaux d'entreprises qui sont en place maintenant depuis 10 années et qui sont au nombre de 9. Ces réseaux contribuent à la valorisation et à l'attractivité de notre territoire. Elles représentent un certain nombre d'entreprises qui représentent un énorme poids économique, mais elles représentent également une quote-part importante du produit fiscal perçu par la métropole, à peu près 46% de ce produit fiscal. Elles jouent, bien entendu, un rôle fédérateur autour de projets mutualisés comme les PDEI, la sécurité, la signalétique, mais on a souhaité donc mener une réflexion partenarial avec eux, et notamment ça a été initié par Jean-François Husson, suite aux difficultés que rencontraient ces ATP à dégager du temps pour développer le fonctionnement des ATP, puisque ça reposait essentiellement sur du bénévolat. Donc cette réflexion a mené à la signature d'un pacte de confiance expérimental pour les années 2017-2020. Ce pacte permet aujourd'hui de structurer leurs moyens d'action par le recours à des moyens humains et on peut noter aussi que la Maison de l'Emploi a participé au recrutement de ces moyens humains. Le montant de la subvention est variable et adapté en fonction des besoins de chaque association. Le soutien financier pluriannuel est dégressif et tient compte de projets développés en adéquation avec les politiques publiques du territoire. Il est demandé en contrepartie de ce soutien aux associations un engagement d'accroissement de leurs adhérents de 10% et de trouver aussi des moyens d'autonomie financière. Donc vous avez le tableau qui représente les subventions des années 17 jusqu'à 2020. Pour l'année 2018, la subvention globale est répartie sur 7 associations, puisque 2 associations n'ont pas souhaité présenter des dossiers. donc porte verte, parce qu'il y a un renouvellement de présidence et le conseil d'administration actuel n'a pas voulu prendre l'engagement de porter un projet qui serait développé par une autre équipe, et Porte Nord qui n'a pas pour le moment donné suite à cette possibilité, malgré la participation à plusieurs réunions. Donc le manteau global, 178 000 euros. Donc il vous est demandé d'approuver les conventions avec les associations qui sont listées. Voilà, Monsieur le Président.
Merci. Ça fonctionne bien, les zones ATP. Pas de problème. Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Alors, Michel Canda, Zach de Frocourt à Fléville.
Oui, Président, chers collègues, donc cette Zach est située sur Fléville et Oudemont, sur un périmètre d'environ 40 hectares au sein du secteur Porte-Sud. Dans le cadre de ses missions et en qualité de concessionnaire pour les opérations d'aménagement concédées par la métropole, la Solarem a procédé à l'aménagement de la ZAC, puis à la cession de plusieurs terrains à vocation commerciale et tertiaire. L'acquisition auprès de Solarem des terrains à commercialiser, toutefois certaines parcelles à vocation d'activité n'ont à ce jour pas encore fait l'objet de commercialisation par l'aménageur. Aussi, dans l'optique de la clôture de la ZAC, il convient de procéder auprès de la Solarem à l'acquisition de celle-ci. Les dites parcelles cadastrées AK 161, 168, 176 sur la commune de Fléville et représentant une superficie de 6903 m², 12900 m² et 5171 m² sont acquises au prix de 55 euros le m² conformément à l'avis de France Domaine en date du 5 février 2018. Soit 1 324 070 euros, auxquels s'ajouteront une TVA de 264 184 euros. À ce prix, a d'ores et déjà été réglé dans le cadre du bilan de la concession de la ZAC, ayant pour conséquence de n'emporter aucun mouvement de fonds au jour de la signature à l'acte notarié. Il est précisé que les frais d'acte notarié sont pris en charge par la Solarem. Concernant la deuxième parcelle, AK 176, au profit de la société HFC, ensuite à l'acquisition sus-évoquée sur la proposition de la Solarem et en accord avec la ville de Fléville, la métropole du Grand Nancy souhaite céder la parcelle cadastré AK 176 à la société Habitat Fermeture Conseil en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités. La rémunération de la Solarem se fera dans le cadre du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage passé avec la métropole du Grand Nancy.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Jean-Pierre Dessin, Zach de Frocourt, rachat et classement des parcelles Solarem.
Le Président, chers collègues, toujours sur le même dossier, donc à Frocourt, la présente délibération abroge la délibération numéro 2 de septembre 2016 relative au rachat et classement des parcelles Solarem dans le domaine public métropolitain sur la ZAC de Frocourt. Dans le cadre des opérations de clôture de cette ZAC sur les communes de Houdemont et Fléville, il y a lieu de procéder au rachat de diverses parcelles auprès de la Solarem. Les emprises à rétrocéder sont situées sur ces deux communes et représente une surface totale de 179 516. Il convient de noter que suite à la création de la métropole qui a entraîné le transfert des routes départementales au Grand Nancy depuis le 1er janvier 2017, les emprises de voirie ont été complétées de 2 308 m² appartenant à Solarem. En effet, celles-ci correspondent à des emprises adjacentes à la route départementale numéro 570 destinée à l'aménagement d'un giratoire. Donc sur les 179 516 m², il convient de noter que les emprises correspondant aux voiries, accessoires et ouvrages hydrauliques sur 67 039 m² seront destinées à intégrer le domaine public. L'acquisition des emprises concernées pour cette rétrocession est réglée dans le cadre du bilan de la concession d'aménagement pour un montant total de 527 303 euros hors taxes. Les frais d'acte notarié à charge de la Solarem. Merci.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Monsieur Passalfini, s'est éloigné momentanément, j'espère. Donc, en attendant qu'il revienne, je vais passer la parole à Anne-Sophie Gavrilov, délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorique sur le territoire du Grand Nancy, en l'absence de Madame Debord.
Oui, merci, Président. Comme vous le savez, la société Estia Réseau de Chaleur assure l'exploitation du service public de production et de distribution de chaleur sur le Grand Nancy. Donc, il y a des modalités pour la perception des recettes auprès des abonnés. La région Grand Est souhaite revoir sa stratégie et donc raccorder ses établissements au service public de chauffage urbain du Grand Nancy et souhaiterait régler la partie fixe de la facture énergétique à part. Par conséquent, il est souhaité une modification de l'avenant pour adapter les modalités de règlement et notamment le coût de la partie qui concerne le coût de financement des investissements.
Merci. Pas de remarques. Pas d'opposition, adoptée. L'affaire suivante, c'est la mutualisation de la fonction de délégué à la production des données avec les communes. Cherchez voir M. Passalfini, parce que ça va être fini, il ne sera pas. Donc, mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données avec les communes et les organismes publics locaux, c'est une délibération technique, mais dont on voit la portée à travers l'intérêt de bien coordonner entre les communes, dans le cadre de la DSIT, la protection des données. Et il est proposé, après avis favorable de la commission territoire, de m'autoriser à signer les conventions de mutualisation, puisque maintenant tout le monde est favorable à la mutualisation, du délégué à la protection des données avec les communes et les établissements publics locaux qui le souhaitent. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Madame Piccoli, élections professionnelles.
Oui, Président. Ces élections professionnelles sur les trois versants de la fonction publique auront lieu le 6 décembre 2018. Elles concernent les élections des délégués aux commissions administratives paritaires, qu'on appelle plus facilement CAP, des catégories A, B et C, et une instance nouvelle, une commission consultative paritaire CCP pour les agents contractuels A, B et C. Et bien sûr, les délégués habituels au comité technique et au comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail. Une autre nouveauté cette année, c'est une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les listes de candidature. Une dernière nouveauté, c'est recourir cette année au vote électronique qui s'effectue à partir de tout poste téléphonique et informatique pourvu qu'il soit relié à Internet pendant 2 jours, le 5 et le 6 décembre. Donc, nous vous proposons de délibérer, premièrement, pour conserver le paritarisme dans les deux instances, des représentants titulaires du personnel et des représentants de l'établissement. Et le deuxième point de la délibération, c'est fixer le nombre de représentants titulaires pour chaque collège à 8, comme actuellement, ainsi qu'un nombre équivalent de suppléants.
Merci. Donc, je voudrais redire la qualité des relations humaines et sociales au niveau de la métropole. Et c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Si Madame Piccoli veut bien terminer, adaptation du tableau des effectifs.
Oui, il s'agit des rituels d'adaptation de tableau. Je vais aller assez vite puisque les détails sont dans la délibération. Le premier point, c'est la création d'un poste permanent au budget général, d'un professeur d'enseignement artistique au conservatoire qui remplissait les conditions d'un CDI de 8 heures. Le deuxième point, c'est la transformation d'un poste permanent au budget général pour remplacer un agent parti en retraite. Troisièmement, c'est la transformation d'un poste temporaire au budget général pour une adaptation de grade.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Mandats spéciaux.
Les mandats spéciaux, il vous est proposé d'autoriser le remboursement à chaque membre de l'Assemblée concernée de frais engagés dans le cadre des missions régulières des élus.
Pas de remarques, pas d'opposition, adopté. Monsieur Passalfini, grands événements sportifs, accueil de la Golden European League de volleyball féminin.
Oui, très rapidement, chers collègues, pour vous dire qu'effectivement, le club du VNVB donc, avait candidaté auprès de la Fédération française de volley pour accueillir un événement d'envergure européenne, la World League en volleyball. Et donc, nous avons validé, de les aider à hauteur de 35 000 euros au titre de la subvention et d'une aide technique, grosso modo, avec le montant de la prestation qui est celui du prêt du Palais des Sports à hauteur de 13 000 euros. Voilà, et ça venait s'inscrire aussi, je crois, dans ce soutien au sport féminin que nous avons décidé cette année, alors en particulier dans la subvention dédiée au club de volleyball féminin, mais aussi au championnat d'Europe de handball qui aura lieu à la fin d'année, et donc d'inscrire tout au long de l'année un certain nombre d'actions en direction du sport féminin. Voilà, Monsieur le Président.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Monsieur Hurpeau, recrutement d'une agence de communication dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain.
Et Monsieur le Président, mes chers collègues, pour accompagner la mise en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain, il est nécessaire d'élaborer un schéma directeur de communication. Celui-ci devra tenir compte de la dimension à la fois métropolitaine et communale du projet, avec un objectif triple: informer les habitants de la métropole de l'évolution du projet, valoriser l'ensemble de ces quartiers à l'échelle de la métropole et des villes, et informer les habitants des quartiers concernés, accompagner les travaux par des dispositifs adaptés. La métropole a décidé de lancer un marché public pour recruter une agence de communication. L'accord cadre est conclu pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2025. 5 candidats sur 11 ont été admis à présenter une offre. Seuls 3 ont présenté leur offre. La proposition retenue est celle du groupement Epicéum Equalitis pour un montant total estimatif de 541 916 euros, soit hors taxe, soit 650 299,50 euros TTC. Pour indemniser le travail fourni par les agences non retenues, il est proposé d'attribuer une indemnité de 300 euros hors taxe. Non, TTC, pardon, soit un total de 600 euros pour ces deux candidats.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition.
Président.
Ah, pardon.
Oui, nous voterons contre cette délibération. Non pas contre le choix de l'agence, ni contre le fait que la métropole ait fait ce recrutement, mais sur le principe. Nous pensons que cette forme de communication, et quand je dis nous, je sais que... En ayant discuté lors de la commission, de nombreux élus le pensent. Nous pensons que cette forme de communication n'est pas efficace, ne mérite pas, par rapport à l'objectif, une somme aussi importante qui serait mieux employée ailleurs. Nous savons aussi que ça fait partie de la convention, mais il nous semble que c'est quelque chose qu'il faudra revoir dans le futur, parce que nous avons maintenant 10 ans d'expérience par rapport à cette forme de communication, par rapport aux habitants dans ce domaine précis, et il nous semble qu'on peut faire beaucoup mieux avec certainement un peu moins d'argent.
Merci. D'autres remarques ? Monsieur Chosereau.
Oui, Monsieur le Président, moi, j'entends les remarques de Monsieur de Manu Donati, mais je crois que sur ces opérations de renouvellement urbain, et on a eu l'exemple sur le premier plan de rénovation urbaine, il est important, je crois, de communiquer auprès de la population. Il ne faut pas qu'on se méprenne sur cette délibération. L'idée, ce n'est pas de communiquer sur le travail du président de la métropole, voire de ses vice-présidents ou des maires des communes. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est comment on informe les habitants de l'avancée du projet, comment on les informe pour qu'ils participent au projet. Il y a un moment donné, il faut bien les informer. Et puis, par expérience, et je vois sur le quartier que ce soit sur les zones ou sur le champ de bœuf, nos constituants, ils aiment voir ce qu'ils ont réfléchi avec nous et qu'ils puissent se projeter vers l'avenir. Donc on est vraiment sur une communication qui n'est pas une communication formelle, mais une communication plutôt de projet et d'avancée de projet. Et autre point, et j'en terminerai là-dessus, c'est prévu dans la convention, tu l'as dit, Manu. Donc moi, je ne vois pas comment, et je le dis, et en cohérence avec les politiques que l'on mène justement sur la commune de Maxéville, où sans cesse on essaye d'informer et d'amener la population avec nous, comment on peut voter contre cette délibération, parce que c'est en contradiction avec une volonté de participation citoyenne, et je sais que tu es attaché à cela. À un moment donné, on ne peut pas d'un côté dire il faut absolument que nos concitoyens nous accompagnent, soient avec nous pour travailler sur les projets, informer les projets, puis en même temps dire on ne peut pas... Je crois qu'il y a une contradiction dans le propos. Donc moi, j'en appelle à voter pour cette délibération. En tout cas, je voterai pour cette délibération.
Merci, monsieur.
Juste une précision, je présidais la commission. Bon, il y a eu des remarques qui étaient contre, la majorité était pour. Hein. Donc voilà, tout simplement. Et deuxièmement, il y a eu une remarque qui a été faite et qui était très juste, c'est que ce montant étalé sur 2025, ça fait peu de communication ramenée à l'année. Donc au-delà de ce que a dit Madame Dumanti, où on est obligé par la convention de faire la communication, au-delà de ce que dit Monsieur Chosereau sur le bien fondé de cette communication, voilà, on n'est pas dans les montants. Enfin voilà, c'est pas là-dessus qu'on fera des grosses économies, de toute façon.
Oui, je voudrais rappeler à Monsieur Donati que tout ça a été évoqué en conférence nationale avec l'ensemble des partenaires sur la rénovation urbaine, qu'au cours de cette séance, Monsieur Donati, j'ai demandé un effort substantiel à l'État pour que la ville de Vendeuvre revienne dans les dossiers nationaux et pas simplement régionaux. Tout ça a fait l'objet d'un attachement. Il m'apparaît qu'il y ait quelques contradictions entre l'expression d'une volonté partagée dans le cadre de les instances de rénovation urbaine et un vote isolé aujourd'hui. Donc je vous appelle à la réflexion parce que c'est de l'intérêt supérieur de Vendeuve. Je mets aux voix. Qui est contre? Merci. Abstention. Je peux vous dire que votre vote sera examiné à la loupe, hein. Non pas par nous, mais par les partenaires.
Monsieur le Président, arrêtez de faire des attaques personnelles, c'est ridicule.
Le vote est terminé, il n'y a pas d'explication de vote. Je vous ai suggéré de faire évoluer votre vote. Vous êtes libre, majeur et vacciné, et en même temps responsable par rapport aux suites à donner sur les dossiers sur Vendeuve. Alors, Madame Graville.
Oui, Monsieur le Président. Donc, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage est en cours de révision. Afin d'éviter les stationnements illicites sur la métropole et en accord avec les maires d'Essay et de Saulx-sur-les-Nancy, une parcelle a été retenue sur la commune d'Essay pour accueillir donc des groupes itinérants de plus de 50 caravanes. Donc, il vous est demandé d'approuver la convention avec le PFL pour une mise à disposition de ce terrain, d'approuver donc la réalisation de cette aire de passage provisoire sur le site d'Essay-les-Nancy, ainsi que le règlement intérieur et les tarifs correspondants.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Monsieur le maire d'Arthes.
Vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce dossier, je crois, comme pas mal de maires, mais je sais que ce dossier a avancé en préfecture avec très peu de concertation avec les maires, très peu de concertation avec les élus du voisinage. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération, ne serait-ce que pour dire à la préfecture, pas de ça chez moi. C'est-à-dire que si jamais il devait avoir une autre réflexion ailleurs sur la métropole, je juge pas du bien fondé des aires de grand passage. Je sais qu'on doit encore faire beaucoup de travail là-dessus et qu'on doit avancer. Mais que ces dossiers soient portés par la préfecture et qu'il n'y ait pas de concertation avec les maires concernés, directement sur les communes ou les alentours, je trouve ça un petit peu scandaleux. Donc je m'abstiendrai pour ne pas voter contre. Merci.
D'autres observations, Madame le rapporteur. Madame le maire de...
Mon observation viendra de ce qui est écrit. Effectivement, je rejoins Jean-Pierre Dessin, puisqu'il est écrit « pourrait être mise provisoirement à disposition des gens du voyage ». Elle est déjà mise à disposition, ce qui, si j'ai bien compris, le conditionnel serait là que si, effectivement, on ne trouve pas ailleurs, on laisse là. Et ce n'est pas ce qui avait été dit en préfecture. On avait bien souligné que c'était provisoirement, puisqu'on se trouvait dans une situation actuellement difficile, puisqu'ils arrivaient et on n'avait pas mis de terrain à disposition. Voilà, c'était ma remarque.
Madame le rapporteur, je vous donnerai quelques...
Peut-être Michel Canda qui a assisté à la réunion.
Non, mais je vais dans le sens de ce que vient de dire mes collègues. Enfin, moi, j'étais autour de la table, j'étais présent avec Michel Breuil. Simplement, là, je suis satisfait de voir qu'on parle de provisoire, hein, puisque j'entends qu'on fait des investissements importants. On a bien, avec Michel, trouver cette solution parce que le plan définitif au niveau du département n'était pas en mesure d'être prêt en juin, voire mai 2018. Donc je serai vigilant. Ça se passe sans de gros problèmes. J'espère que ça va continuer. Vu ce qui est annoncé ce week-end, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, puisque plusieurs groupes sont soit annoncés sur la métropole. Il faut être très vigilant. Je sollicite souvent les services pour qu'ils fassent respecter ce qui était engagé avec les passeurs qui sont nos interlocuteurs. Donc là, je serai et je continuerai à être vigilant comme le maire de d'Essès sur le respect que ces gens doivent à ce site.
Merci, monsieur le maire de Maxéville.
Oui, merci, monsieur le président. J'ai participé, monsieur le président, mardi dernier à la réunion du comité permanent justement sur l'élaboration du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. On est bien là sur une. On n'est pas maître d'œuvre de cette affaire-là. C'est bien le département et la préfecture qui est maître d'œuvre de l'élaboration du schéma. Il a été noté à cette réunion-là que la métropole a fait sa part de travail. C'est-à-dire que sur la métropole, une aire de grand passage a été mise en place. Alors avant, elle était de manière provisoire sur les carrières soulevées. Là maintenant, elle est sur les communes de plus loin de Essay et puis de Saulsure. Mais il était mis en avant aussi une autre difficulté, c'est la difficulté que lorsqu'il y a un groupe dit de grand passage qui est installé et un autre groupe arrive et que le premier n'est pas parti, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, il y a la conclusion qui est posée qu'il manque une aire de grand passage sur, non pas la métropole, mais sur l'aire métropolitaine. Et évidemment, on cherche un deuxième lieu pour justement créer une autre aire de grand passage. Et j'ai simplement fait remarquer, monsieur le président, que on en appelle à la solidarité des territoires, c'est-à-dire que la métropole a fait sa part et a fait ce bout de chemin. Maintenant, on a des territoires qui sont voisins, à eux également de faire leur bout de chemin, parce que si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer ? Si on a des gens qui arrivent ce week-end, si l'aire de grand passage n'est pas libérée, eh bien, ils vont aller ailleurs, et en général, le ailleurs, ça s'appelle les carrières soulevées et le parking du Zénith. Voilà, monsieur le président.
Merci.
Merci. Peut-être juste pour compléter, le préfet s'est engagé à intervenir en cas d'occupation illicite et je crois qu'il est assez déterminé sur le sujet, ce qui est peut-être de nature à rassurer les maires.
Alors, je voudrais rappeler que le schéma départemental sur tout le 54 est sous la responsabilité conjointe du préfet et du président du Conseil général. C'est à eux à pourvoir à la définition des espaces où il est possible d'accueillir des groupes. Ça veut dire que nous devons faire notre part de chemin, mais pas exclusivement. À l'inverse, dans la mesure où nous faisons cette part du chemin, le préfet s'est engagé, et jusqu'ici, les choses se sont plutôt bien passées pour faire évacuer les caravanes qui ne seraient pas dans des conditions normal d'accueil. Et si nous n'avions pas un terrain, j'ai pas dit peu importe, conséquent, cela nous ferait perdre devant les tribunaux lorsque nous sommes en situation de tension et de recours. Alors, ce terrain a quand même une particularité. D'abord, il appartient à la métropole, et il est propriété de l'EPFL pour le compte de la métropole. Donc, c'est comme si c'était un terrain de la métropole. Donc c'est un effort, c'est situé sur le territoire d'Essay, en liaison, en proximité avec Pulnoy et avec Saulsure, et je remercie Michel de ces précisions. Ça nous amène à beaucoup de vigilance. C'est une période l'évolution grand parcours de caravane. Mais je pense que nous faisons notre quote-part avec beaucoup d'exigence et beaucoup de vigilance. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, l'affaire suivante, financement d'une équipe pluridisciplinaire dédiée à la prise en charge des situations d'incurie dans le logement. Madame Gavrilov.
Oui, merci, Président. Donc, vous savez qu'il existe un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et non décent. Donc, la métropole travaille sur ce partenariat avec l'État, l'ARS et la Caisse d'allocation familiale. Il s'appuie sur sur un observatoire des signalements depuis 2006. Et vu les résultats positifs de cette démarche, il a été décidé de poursuivre une expérimentation, enfin de mener une expérimentation, pardon. Et donc l'association Espoir 54 a été retenue pour porter ce projet qui consiste à suivre les situations d'incurie dans le logement. Donc c'est une démarche expérimentale qui est prévue sur une durée de 3 ans. Et la métropole est sollicitée pour apporter un financement à cette expérimentation à hauteur de 30 000 euros, 15 000 euros pour l'achat d'un véhicule et 15 000 euros pour l'accompagnement, pour des actions d'accompagnement.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Jean-Pierre Urpeau. Accession à la propriété, agrément prêt spécial, location, accession et surcharge foncière, coopérative Le Nid.
Oui, Président, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre de l'État, le Grand Nancy peut attribuer des agréments autorisant les opérateurs à monter des opérations de location, accession. Le prêt social location, accession, appelé PSLA, ouvre droit à des avantages, notamment une TVA réduite à 5,5%, une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pendant 15 ans, une garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans également, et un prix de vente plafonné. La délibération du 1er février 2013 avait acté le plafonnement des opérations PSLA à 2 200 euros. La coopérative Le Nid propose une opération de 8 logements situés sur la rue du Chanoine Pierron à Villers-les-Nancy. Ce sont 2 T4 et 6 T5, et la métropole est sollicitée pour une participation financière au titre de l'aide à la surcharge foncière, pour un total de 38 000 euros.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors, sixième PLHD, accession à la propriété, je pense sur les mêmes conditions, les mêmes argumentaires, agrément d'un prêt social, location, accession, surcharge foncière pour Batigère, maison familiale. J'ai tout dit, monsieur le rapporteur, donc.
Oh, presque, oui. Il vous est demandé donc de réserver 8 agréments PSLA pour cette opération.
Parfait. Et d'autoriser le président à signer. L'abstention adoptée. Accession à la propriété, attribution de subvention.
Là, il s'agit d'accorder une subvention de 5 000 euros au ménage mentionné à l'annexe, sous réserve de l'octroi, évidemment, définitif d'un prêt à taux zéro et la signature de l'acte de vente définitif et de la déclaration d'ouverture de chantier.
Parfait. Pas d'opposition. Adopté. Affaire suivante, garantie d'emprunt en faveur de logement HLM, banque CDC.
Une opération portée par MMH, retenue à la programmation 2017 et qui concerne la construction de 11 logements HLM en plus et 5 logements HLM en PLAI sur l'avenue du 69e RI à Essel-et-Nancy. Donc un prêt total de 1 569 000 euros. Il est demandé à 100% la garantie de la métropole.
Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Sixième PLHD, pré-programmation de logements pour 2018, attribution des aides pour les logements à loyer modéré.
Alors là, c'est une opération portée par Présence Habitat et qui concerne 3 logements HLM situés 23 rue de la République et avenue du Général Leclerc à Malzéville pour un prêt total de 150 381 euros.
Parfait. Pas d'observation, pas d'opposition adoptée. François Werner, développement universitaire, vie étudiante, attribution de subvention.
Ah bon. Dit, on connaît cette délibération rituelle.
Parfait. Pas de remarques, pas d'opposition adoptée. Mes chers collègues, je vous indique que nous avons encore 2 conseils métropolitains qui seront lourds, importants.
Président, si je peux me permettre, vous avez omis la délibération numéro 36.
Bah écoutez, je pense que tout ça se résume dans le titre. Hein. Attribution des aides pour les logements à loyer modéré, c'est bien ça?
Non, parce qu'on a une modification à apporter
à
cette délibération, sachant que nous n'avons reçu que tardivement de la part de la région l'autorisation d'augmenter le nombre de PLS. Et donc, ce qui était dans la délibération en liste complémentaire, c'est-à-dire les 26 PLS de la liste complémentaire, peuvent passer en liste principale.
Très bien.
Voilà la modification que
je
souhaitais apporter.
Pas de position adoptée. Alors maintenant, seul M. Werner a la parole pour conclure. C'était fait. Il l'a fait avec rapidité et élégance. C'était pour voir s'il suivait. Mes chers collègues, j'en reviens à ma communication. Nous avons deux conseils métropolitains importants, oserais-je dire très importants. Le vendredi 22 juin 2018, compte administratif, contrat financier avec l'État, contrat de partenariat entre la région Grand Est et la métropole. C'est ce qui engage la région pour un montant significatif en direction de la métropole. Projet de cohésion sociale et territoriale, contrat de ville, subvention 2018. Refondation du technopôle Henri Poincaré, projet de maison de l'innovation technopolitaine et plusieurs rapports d'activité ou assainissement déchets. Par contre, nous avons le vendredi 6 juillet, quatre délibérations majeures. Il y aura le rapport d'activité de développement durable de la métropole, le projet métropolitain, Grand Nancy Thermal, contrat de délégation de service public, et le Zénith du Grand Nancy, contrat de délégation de service public. Donc je vous rends attentif préalablement à l'importance de ces rapports. Je vous remercie. La séance est levée.